VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous. Au micro, Morgane Guériec et Anne Albertson. Bienvenue à l'écoute de cette édition du mercredi 3 février 2016. À la une ce matin.
Au Mali, un groupe armé pro-gouvernemental entre sans violence à Kidal, bastion de l'ex-rébellion.
Ce n'est pas les combattants de Gatia, mais c'est les combattants de la plateforme qui doivent être aujourd'hui dans la région de Kidal.
Centrafrique, des soldats musulmans réclament plus d'armes pour protéger leur communauté.
Depuis l'arrivée du pape jusqu'à maintenant, il y a calme. Les gens peuvent promener n'importe où, on peut aller en ville et retourner, pas de problème.
Fièvre Lassa, le Bénin recense 20 cas suspects.
En Syrie, les forces pro-régime ont progressé dans la province syrienne d'Alep. Pendant ce temps, les pourparlers de Genève restent au point mort.
En Tunisie, le gouvernement propose de fermer les jardins d'enfants coraniques qui ne bénéficient pas d'autorisation.
Comme tous les matins, la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
Dans le nord du Mali, des centaines de membres d'un groupe armé pro-gouvernemental sont entrés hier sans violence à Kidal, bastion de l'ex-rébellion. Pour rappel, à l'été 2015, les combats entre la coordination des mouvements de la Zawad, CMA, et les milices pro-Bamako de la plateforme se poursuivaient, et ce malgré la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et l'ex-rébellion. Aujourd'hui, la paix semble être en marche dans le nord malien. Tel est le point de vue de Mohamed Ould Matali, membre de la plateforme qui regroupe les milices proches du gouvernement malien.
Ce qui est passé à Kidal est que rien que la continuité du processus négocié qui a commencé depuis à Nefis, qui s'est poursuivi à Golhok, à Al-Khalil, à Tenesako, à Menaka, et la finalité, la conclusion devrait se faire à Kidal. Ce n'est pas les combattants du Gatia, mais c'est les combattants de la plateforme qui doivent être aujourd'hui dans la région de Kidal, dans la ville de Kidal, pour préparer la rencontre définitive qui doit finaliser et conclure l'entente qui s'est passée entre toutes les communautés du Nord. La rencontre doit se tenir à Kidal parce qu'on doit aller bientôt dans un processus transitoire dans toutes les régions du Nord où il y aura la CEMA, il y aura la plateforme, il y aura l'État. Donc ça veut dire que partout aujourd'hui, la CEMA doit être présente, partout la plateforme doit être présente, partout l'État doit être présent.
Au Bénin, 20 cas suspects de fièvre Lassa ont été répertoriés par le ministère de la Santé dans le centre du pays, dont 9 décès. Éric Manirakiza.
Le premier cas a été signalé le 5 janvier à Saint-Martin de Papané, dans la commune de Tchaourou, au nord de Cotonou. Unité d'isolement a été mise en place. Des personnes étant entrées en contact avec des malades sont en cours d'enregistrement. Des stocks de ribavirine, le médicament contre cette maladie, ont été acheminés de Cotonou. L'épidémie de fièvre Lassa en cours dans 17 États du Nigeria voisin a déjà fait 84 morts sur 168 cas suspects. Cette maladie peut provoquer de graves atteintes hémorragiques ou neurologiques et se transmet par contact direct avec du sang, des urines, des selles ou d'autres liquides biologiques d'une personne malade.
En République démocratique du Congo, la chute des cours des matières premières pourrait compromettre le financement des élections, selon le Premier ministre. Le point avec Eddy Issango.
Augustin Matata Ponyo estime que son gouvernement ne pourra pas financer les élections avec l'argent des ménages. Si les cours du cuivre tombaient à 2 600 $ la tonne, les barils de pétrole à 10 $ et que toutes les entreprises minières fermées. Il l'a fait savoir lors d'une conférence de presse soutenant que les prix allaient descendre davantage en 2016 du fait de la contraction de la demande chinoise qui va avoir un impact direct sur les recettes budgétaires du pays. La semaine dernière, les ministres de l'Intérieur Évariste Boshab avait fait part de l'engagement ferme, irrévocable et sans équivoque du gouvernement à financer la révision du fichier électoral en vue de la présidentielle prévue en 2016. L'opération devrait coûter 1,2 milliard de dollars selon la commission électorale qui a du reste tiré la sonnette d'alarme sur un blocage au plan financier. Malgré la difficulté qui se profile à l'horizon, le Premier ministre congolais a affirmé que la RDC continuera à se passer de l'aide du Fonds monétaire international. « Vous n'êtes pas malade et vous voulez voir les féticheurs », a résumé le Premier ministre, fort des performances économiques de son gouvernement, se réalisant sans programme avec les FMI.
Le procureur général du Zimbabwe, dans les mailles de la justice. Il est accusé d'entrave à la justice pour avoir relaxé deux hommes accusés de préparer un attentat contre une ferme du président Robert Mugabe. Les précisions de Félix Sépassi-Zimbro.
Farouche partisan du chef de l'État zimbabwéen et ennemi juré de l'opposition, le procureur Johannes Tumana risque jusqu'à 15 ans de prison. Il a été libéré sous caution et sommé de remettre son passeport aux autorités. Cette démêlée judiciaire remonte à l'arrestation le 22 janvier de deux caporaux de l'armée, d'un soldat retraité et d'un quatrième homme près de la ferme présidentielle. Portant de l'ammoniac et des cocktails Molotov, ils ont été inculpés de possession d'armes de sabotage et de blanchiment d'argent à des fins terroristes. Pour avoir libéré deux des suspects, le procureur Johannes Tumana a été accusé d'abus d'autorité et inculpé. Entre-temps, de nouveaux chefs d'accusation ont été versés au dossier des quatre suspects. Ils auraient tenté de former une milice à l'ouest de Harare en vue de renverser le président Mugabe. Ils risquent la peine de mort ou la prison à perpétuité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, les forces pro-régime ont progressé dans la province d'Alep. Un colonel a indiqué à l'AFP que les forces loyales au président Bachar al-Assad n'étaient plus qu'à 3 km des localités de Nebol et Zara. Soutenues par 320 frappes effectuées depuis lundi par l'aviation russe, l'armée syrienne espère briser le siège de deux localités chiites et couper une route d'approvisionnement des rebelles islamistes. Depuis lundi, 26 combattants pro-régime et 60 rebelles ont été tués dans les combats dans ce secteur, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Près de Damas, la capitale, le Croissant Rouge syrien a pu acheminer de l'aide humanitaire internationale à une ville rebelle assiégée par des troupes pro-gouvernementales.
Au plan diplomatique, les discussions de Genève sont au point mort. Difficile de réunir les belligérants. Le régime syrien affirme ne pas avoir de partenaire pour négocier. En face, l'opposition, qui accuse la communauté internationale d'être aveugle face à la tragédie, exige des mesures immédiates en faveur des civils. L'envoyé spécial de l'ONU, Stéphane de Mistura, avait pourtant suscité l'espoir en annonçant le lancement des pourparlers.
Crise électorale en Haïti, plusieurs centaines de partisans du pouvoir ont défilé mardi à Port-au-Prince pour s'opposer à la possible mise en place d'une transition à partir de dimanche. Une mesure qui pourrait être prise faute de successeur élu au président actuel en raison du report du second tour du scrutin.
La Corée du Nord prévoit de lancer une fusée transportant un satellite, un projet qui constitue une provocation sérieuse, a réagi ce matin le Premier ministre japonais. Ce serait une claire violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, prévient Shinzo Abe. Un Conseil de sécurité nationale doit d'ailleurs se réunir aujourd'hui pour évaluer la situation et prendre des dispositions. Le Japon a déjà décidé de déployer son système de défense antimissile solaire dans 3 bases de Tokyo. C'est ce qu'ont fait savoir les autorités.
Épidémie du virus Zika, plus de 400 cas de microcéphalie ont été confirmés entre octobre 2015 et janvier 2016 au Brésil. 3670 autres cas suspects sont en cours d'examen, c'est ce qu'a annoncé mardi le ministère de la Santé. Le Zika est fortement soupçonné d'avoir un lien avec une malformation congénitale dont souffrent les enfants nés avec un cerveau anormalement petit.
Le président américain Barack Obama a affirmé mardi, lors d'un échange téléphonique avec le premier ministre britannique David Cameron, que les États-Unis soutenaient un Royaume-Uni fort dans une Union européenne forte. C'est ce qu'a indiqué la Maison-Blanche. Monsieur Cameron a promis d'organiser un référendum sur le maintien de son pays dans l'Union européenne, sous la pression notamment de l'aile eurosceptique de son propre parti, au risque de provoquer une nouvelle crise majeure au sein de l'Union européenne, déjà ébranlée par la crise migratoire.
Le président Barack Obama va visiter pour la première fois une mosquée ici aux États-Unis. Le président américain rencontre aujourd'hui la Société islamique de Baltimore. Pour la Maison-Blanche, il s'agit d'envoyer un signal clair à la communauté musulmane américaine que le président va défendre son droit de culte. Rappelons que le président Obama a déjà visité de nombreuses mosquées dans le reste du monde au cours de son mandat.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
La Banque africaine de développement va financer à hauteur de 60 milliards de francs CFA l'axe Bamako-San Pedro en Côte d'Ivoire. Ce projet vise à renforcer la mobilité et la résilience des populations en aménageant des routes et en favorisant la mise en place d'infrastructures sociales de base. Cette enveloppe comprend 40 milliards de francs CFA sous forme de prêts et 20 milliards de dons. Les transports devraient être facilités entre Bamako, Zantier-Bougou, Colondieba, Boundiali et San Pedro grâce au bitumage de 140 km de route, l'aménagement de 100 km de pistes rurales ainsi que l'installation de systèmes d'éclairage solaire public dans diverses localités. 3 milliards de dollars sur 4 ans, c'est le montant que la Banque mondiale va allouer à la Côte d'Ivoire dans le cadre d'un nouveau partenariat. Au cours d'une conférence de presse à Abidjan, Pierre Laporte, le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, a dit qu'il était important que le pays garde une croissance forte et que les revenus générés soient équitablement répartis. Les réformes pour une meilleure stabilité macroéconomique doivent continuer et le secteur privé doit continuer de résorber le chômage. Le Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES, a accordé à la Mauritanie un prêt de 30 millions de dinars koweïtiens, soit 98 millions de dollars, pour contribuer au financement du projet de renforcement de l'interconnexion électrique entre l'État mauritanien et le Sénégal.
La Minute Éco, merci Claire. Plein feu sur les stades, les sports avec Bagessicora. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Morgan.
Et Chan 2016, programme des demi-finales.
Oui, à Kigali, au stade Amahoro, les Léopards de la RDC affronteront le Sili National de Guinée. Les Léopards sont bien sûr donnés favoris, mais le Sili a prouvé qu'il est un adversaire qui sera difficile à battre. Jeudi, ce sera un choc au 100% ouest-africain entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Mali qui a sorti la Tunisie en quart de finale alors que la Côte d'Ivoire humiliait le Cameroun 3-0.
Football, Neymar entendu par la justice.
Oui, il a été même mis en examen hier pour évasion fiscale et falsification de documents sur la période entre 2006 et 2013 lorsqu'il a quitté son club de Santos pour le FC Barcelone. Le ministère public fédéral de Santos a mis en examen le joueur de football Neymar da Silva Santos Junior, son père Neymar da Silva Santos et les dirigeants liés au club de football Barcelone Alexandre Rossell Feliu et Joseph Maria Bartolomé Floresta pour évasion fiscale et falsification, a indiqué le parquet dans un communiqué quelques heures après le témoignage de l'attaquant devant la justice espagnole au sujet d'irrégularité dans la signature de son contrat avec le Barça. Le Barça avait chiffré le transfert de Neymar à 57 millions d'euros, dont 40 pour la famille du joueur et 17 millions pour Santos FC, précédent club du Brésilien. Mais la justice espagnole a évalué le montant réel à au moins 83 millions d'euros.
Durcissement des mesures antidopage au Nigeria.
Oui, le ministre nigérian des Sports, Salomon Dalum, affirme avoir durci les mesures antidopage après la suspension de 8 athlètes nigériens contrôlés positifs lors des Jeux africains en septembre dernier. Les 8 cas de dopage enregistrés lors de la compétition au Congo concernent des athlètes valides et handisports dans 3 disciplines, l'athlétisme, l'haltérophilie et la lutte. Et Morgane, pour terminer, quelques résultats de la NBA. Le championnat de basketball nord-américain.
Boston Celtics, New York Knicks, 97-89. Miami Heat, Houston Rockets, 102-115. Toronto Raptors, Phoenix Suns, 104-97. Zoom sur les élections présidentielles américaines, primaires, conventions, Super Tuesday, les grandes étapes dans la course pour la Maison Blanche, un processus propre aux États-Unis et avec des candidats ultra médiatisés. Qu'en pensez-vous? Suivez-vous cette élection? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guerriac au micro. Le Monde aujourd'hui, deuxième partie de notre émission. Première escale, la République centrafricaine, des soldats musulmans au sein de l'armée réclament plus d'armes et de munitions pour protéger leur communauté dans la capitale Bangui. Ils évoquent la menace que pose une nouvelle milice localement formée par des musulmans. De même, des habitants du quartier PK5 demandent eux aussi que les militaires soient mieux équipés. Depuis Bangui, le reportage du correspondant de la VOA rendu ici par Jacques Aristide.
Le PK5 est le quartier qui abrite le plus grand marché de la capitale centrafricaine, mais aussi les derniers musulmans de Bangui, après le départ de beaucoup d'autres, à cause des affrontements ethniques au cours des 3 années écoulées. Des combats ont eu lieu ici en septembre dernier, mais une certaine accalmie prévaut depuis. Mahamad Abdou est commerçant.
Non, depuis l'arrivée du pape jusqu'au maintenant, il y a quand même calmie. Les gens peuvent promener n'importe où, on peut aller en ville et retourner, pas de problème.
En dehors de l'arrondissement du PK5, les musulmans sont confrontés aux dangers que représentent les anti-Balaka, groupe majoritairement constitué de chrétiens. Au PK5 sévit encore une milice musulmane, Paleseleka, qui avait, eux, renversé le gouvernement il y a 3 ans, mais un autre groupe, issu localement et qui a pris le contrôle du quartier. Un autre commerçant, Ahmad Idriss, est d'avis que la situation sécuritaire s'est considérablement améliorée depuis le déploiement, il y a 2 mois, par l'armée centrafricaine, d'une unité composée de soldats musulmans originaires du PK5.
Nous ne voulons que la paix, que l'état-major aide les militaires afin qu'ils puissent travailler comme avant. Nous ne voulons plus de conflits, mais la paix, c'est tout. Que les FAKA reprennent les activités comme auparavant, c'est tout. Que j'ai à dire.
L'un des soldats musulmans a confié à la VOA que son unité ne dispose que d'une poignée de fusils et a été attaqué à maintes reprises par la milice musulmane, lourdement armée et qui est apparemment soutenue par des politiciens. Le militaire ajoute toutefois que la mission des Nations Unies, la MINUSCA, leur vient en aide, d'autant qu'elle a récemment déployé des troupes égyptiennes dans la zone. Les milices et les forces de sécurité semblent observer une trêve en ce moment dans le quartier PK5, mais il s'agit d'un cessez-le-feu fragile, et la situation pourrait basculer après le changement de gouvernement qui interviendra au terme des élections prévues durant ce mois de février.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Nous partons maintenant au Mali, où des centaines de personnes sont rapatriées de Libye. Pas moins de 173 Maliens sont arrivés hier à Bamako, emboîtant le pas à un premier convoi de 175 personnes. Ces Maliens sont revenus blessés, parfois malades. Ils ont été accueillis par les autorités à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. Correspondance de Kassim Traoré.
C'est en début de soirée que le deuxième convoi des Maliens rapatriés de la Libye est arrivé à Bamako. En majorité des jeunes qui travaillaient en Libye. Mon neveu a été blessé. Il était avec moi pendant des années. Nous avons travaillé. Tout comme lui, celui-là aussi était dans une raffinerie. Il est tombé sous des balles ennemies. Personne ne sait quoi faire à Libye actuellement. C'est pourquoi nous avons sauté sur cette occasion. Parmi les rapatriés, il y a 2 blessés graves qui ont été touchés par des balles. Abdramane Sila, ministre des Maliens de l'Extérieur.
Je pense que vous venez de voir l'état de 2 personnes très touchées par des balles en Libye, ce qui traduit à suffisance la gravité de la situation qui prévaut actuellement en Libye.
Les 173 Maliens ont pu regagner Bamako grâce à une collaboration entre les autorités maliennes et l'organisation internationale de la migration OIM qui était représentée par Bakary Doumbia.
Nous sommes là pour soutenir le gouvernement du Mali dans tout ce qui est en rapport avec les questions de migration. Pour les 173 personnes qui sont arrivées aujourd'hui, ils étaient dans des conditions assez difficiles. Ils ont fait appel à l'ambassade du Mali en Libye et ensemble nous avons coordonné nos activités et il a été possible de les faire venir aujourd'hui.
Les Maliens venus de la Libye seront pris en charge par le gouvernement malien le temps de retrouver leur localité d'origine. Abdramane Sila, ministre des Maliens de l'Extérieur.
Chaque fois que nous avons reçu nos compatriotes, ils sont pris en charge par le ministère du Développement Social que je salue ici. Ils seront logés. Pour ceux qui demanderont des soins, ils seront soignés. Et ils seront donc envoyés dans leur village d'origine ou dans leur région d'origine avec effectivement les soins de l'État. Donc je veux simplement dire que leur transport leur sera donc donné pour pouvoir rejoindre leur localité d'origine.
Le ministre malien de l'Extérieur se réjouit de l'arrivée dans les bonnes conditions des Maliens de la Libye. Il a critiqué le comportement inhumain que le Gabon inflige aux Maliens qui sont expulsés.
Pour le Gabon, vous avez vu, j'ai dû intervenir en son temps pour dire que ce n'est pas du tout normal. Un pays africain frère, ami du Mali, et qui rapatrie de façon, excusez-moi l'expression, mais de façon sauvage nos compatriotes. Nous l'avons dénoncé. Les gens sont embarqués dans des bateaux comme des troupeaux, débarqués dans un pays tiers, ce qui est contraire aux lois internationales.
Beaucoup de Maliens sont encore en détresse en Libye. C'est pourquoi le gouvernement et son partenaire OIM vont continuer la collaboration afin de préparer d'autres rapatriements. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Du nouveau sur l'épidémie de Zika, le moustique ne serait malheureusement pas le seul moyen possible de transmission. Le virus pourrait aussi se transmettre par voie sexuelle. Pour nous en parler, Eric Manirakiza, joint au Sénégal, le directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Dakar, le docteur Amadou Sall.
La transmission sexuelle est quelque chose de probable. C'est qu'il y a eu un certain nombre de cas où on suspecte que la transmission a été sexuelle, mais il n'y a pas de preuve formelle là-dessus. Compte tenu d'une infection qui a été documentée, une des voies qui a probablement pu être en jeu, ça a été la voie sexuelle. Mais à ce jour, le moyen prédominant est la transmission par les moustiques.
Le virus est potentiellement dangereux pour les femmes enceintes. Comment ça exactement?
Le fait qu'on a retrouvé du virus dans le liquide amniotique des femmes enceintes qui ont donné lieu à des enfants avec la microcéphalie. On ne peut pas, pour l'instant, sur la base de ces seuls arguments, dire que c'est la cause, même s'il y a des arguments qui vont dans ce sens. Alors on parlera plutôt d'association. Maintenant, si la cause est établie, il faudrait voir par quel mécanisme cela se fait. Mais à ce jour, ce mécanisme n'est pas connu.
Si le virus n'a ni médicaments ni prévention, est-ce mortel?
Bon, la mortalité du virus Zika n'est pas très très importante. Elle est très faible. En tout cas, c'est l'infection chez l'adulte. Maintenant, quand on dit qu'il n'y a pas de thérapie, il faut dire qu'il n'y a pas de thérapie spécifique. Quand on dit qu'il n'y a pas de vaccin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moyen de prévention. Puisque le virus étant transmis par des moustiques, on peut lutter contre ces vecteurs pour éviter les piqûres de moustiques. Par ce moyen-là, on peut prévenir l'infection par le virus Zika.
Apparemment, il y a beaucoup de panique et l'OMS dit que nous devons agir.
Je pense que souvent, quand il y a une nouveauté en matière de santé publique et on n'a pas l'impression d'en maîtriser les causes ni l'évolution, il peut y avoir une inquiétude dans les populations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les autorités de santé publique dans la plupart des pays sont mobilisées et sont venues à bout de ce genre de situation. Je pense qu'il y a eu d'autres épidémies beaucoup plus sérieuses et il a été possible de venir à bout. Donc, à mon avis, il n'y a pas lieu de paniquer.
Le docteur scientifique de l'Institut Pasteur de Dakar, le docteur Amadou Sall. La Tunisie, pays qui fournit le plus de combattants à Daesh. Environ 3000 Tunisiens sont partis faire le djihad pour tenter d'endiguer le terrorisme. La ministre de la Famille et de l'Enfance, Samira Merail, a proposé la semaine dernière de fermer les jardins d'enfance coraniques qui ne bénéficient pas d'autorisation. Une proposition qui a fait débat dans le pays. Mehdi Segel a joint Lofti Touati, directeur de la rédaction de Zitouna Télé.
La question s'est déclenchée lorsque la ministre de la Femme et de la Famille a déclaré qu'elle se proposait de fermer les écoles coraniques. Et il y a eu une vague de protestations à la suite de cette déclaration et les gens ont dit que c'est une erreur, mais il fallait dire qu'il faudrait fermer les écoles qui ne respectait pas la réglementation en vigueur. La ministre s'est rétractée dans une émission d'une chaîne télé et elle a dit que ses propos ont été déformés et qu'elle n'avait pas dit ça exactement. Elle a expliqué qu'elle est elle-même issue d'une famille de conservateurs et qu'elle a ses parents ont étudié dans des écoles coraniques, mais elle a dit qu'elle n'avait pas l'intention de dire ça et de fermer les écoles coraniques. Et elle a même dit que les écoles coraniques ne dépendaient pas de son ministère.
Pourquoi est-ce que vous pensez qu'elle s'est rétractée ?
Le problème, c'est que certaines personnes qui dépendent un peu de l'obédience gauchiste en Tunisie, donc qui estiment que le terrorisme venait des écoles coraniques. Donc, ils estimaient à tort que ce sont les écoles coraniques qui sont derrière cette vague de terrorisme et de violence. Donc je pense que la ministre s'est rétractée parce qu'il y avait une vague de protestations de la société civile qui sont pour les écoles coraniques. Moi-même, j'estime que les écoles coraniques ne sont pas derrière le terrorisme, que ce soit en Tunisie ou dans le monde. Moi, je pense qu'il faut que la loi soit valable pour tous, que ce soit les écoles coraniques, que ce soit les écoles qui sont contre la loi, que ce soit n'importe qui dépasse la loi. Donc, il faut que la société et que les citoyens soient égaux devant la loi. Et il faut que les textes soient clairs. Donc, que ce soit pour les écoles coraniques, pour les écoles privées, pour les écoles professionnelles et tout. Donc, moi, je pense que pour vivre en harmonie, la loi doit être claire pour tous.
Lofti Touati, directeur de la rédaction de Zitouna Télé depuis Tunisie, depuis Tunis en Tunisie. En Arabie Saoudite, certaines athlètes utilisent le sport pour briser les traditions. À Jeddah, une équipe féminine de basketball encourage les femmes à sortir des maisons pour participer à la vie publique. Michel Joseph.
L'Arabie Saoudite est l'un des pays les plus riches du Proche-Orient. Ses infrastructures et commerces n'ont rien à envier aux pays développés. Mais lorsqu'il s'agit du droit des femmes, le pays est encore à l'âge de pierre. À Jeddah, des militantes encouragent les femmes à faire du basketball et d'autres sports. D'abord pour la santé, mais aussi enlever l'image d'une femme saoudienne effacée et virtuellement silencieuse en société. Elle ne s'affiche pas en short, mais en pantalon, et le voile islamique est toujours de rigueur sur leur tête. L'équipe féminine de basketball, Jeddah, a même participé à des matchs amicaux en Malaisie, autre pays musulman. Pour les responsables de l'équipe, jouer à l'international ouvre de nouveaux horizons aux femmes saoudiennes et aux pays qu'elles visitent. Lina Almaina dirige l'équipe de Jeddah United Sports Company.
Nous avons joué aux États-Unis, en Malaisie, en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis, mais aussi à Riyad et dans d'autres villes saoudiennes. Nous le faisons pour promouvoir le sport, essayer de vaincre les stéréotypes, montrer un autre visage de l'Arabie Saoudite.
Pendant un événement pour la promotion du sport pour les enfants handicapés, ces femmes basketteuses ont assuré qu'il y avait même une longue liste d'attente pour entrer dans leur équipe féminine. Les hommes saoudiens n'assistent pas aux matchs féminins. Les caméras ne sont autorisées que lorsque les joueuses sont entièrement couvertes. Malgré tout, beaucoup de gens n'acceptent même pas l'idée. La joueuse Nour Gari estime que pour combattre ces préjugés, il faut pousser les barrières sans les briser.
Ce n'est même pas contraire à la loi ni la religion. C'est juste parce que les gens ont leurs propres croyances qu'ils transposent sur les autres. Et en s'ouvrant au sport, ils ont plus de flexibilité envers d'autres choses.
Les droits des femmes en Arabie Saoudite ont légèrement bougé ces dernières années, mais jusqu'à présent, la simple liberté pour une femme de conduire une voiture est loin d'être acquise. L'année dernière, les femmes saoudiennes ont voté pour la première fois. Une vingtaine de femmes ont été élues au communal. Comme ces politiciennes, les femmes athlètes espèrent que le sport féminin sera de plus en plus accepté en Arabie Saoudite.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Annette Burson. Morgane Yeriek à la présentation. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée à tous.